Bonjour à tous les Auroviliens. Alors aujourd'hui, je vais vous lire Savitri, livre 7, chant 6, la continuité de la semaine dernière, le Nirvana. Parfois seulement, de petites pensées montaient et retombaient, comme de légères vagues sur une des mers silencieuses, ou comme des ondulations qui passent sur un étang solitaire. Quand une pierre perdue dérange son repos rêveur, mais l'usine mentale avait cessé son travail. Nul son ne venait du vrombissement de la dynamo, nul appel des chants immobiles de la vie. Puis même, ses remous ne montaient plus en elle. Son mental maintenant ressemblait à une vaste chambre vide ou à un paysage paisible et sans nom. Tel est ce que les hommes appellent quiétude et prise comme la paix. Mais pour sa vue plus profonde, tout restait encore là, bouillonnant comme un chaos sous un couvercle, sentiments et pensées criaient pour avoir la parole et agir, mais ne trouvaient aucune réponse dans le cerveau réduit au silence. Tout était étouffé, mais rien encore n'était effacé. À n'importe quel moment, l'explosion pouvait venir, puis cela aussi s'est arrêté. Le corps était comme une pierre. Désormais, tout était une vaste vacuité puissante, mais encore exclu du calme de l'éternité, car encore le repos de l'absolu était loin. Loin l'océan de silence de l'infinité. Même maintenant, quelques pensées pouvaient traverser sa solitude. Elles ne surgissaient pas des profondeurs ni du dedans. Remonter dans le sans forme pour chercher une forme, elles ne disaient pas les besoins du corps ni l'appel du mental. Elle semblait sans naissance, ni faite dans le temps humain. Enfant de la nature cosmique, d'un monde extraterrestre, des formes de l'idée étaient toutes armées de mots, postées là comme les voyageurs d'un autre espace. Elle semblait sortie d'un firmament lointain, comme de grands voiles blanches portées par de vastes ailes. Mais elle avait un accès facile à l'oreille intérieure. Alors je répète parce que c'est extraordinaire. Mais elle avait un accès facile à l'oreille intérieure, comme si elle utilisait un droit naturel privilégié pour les hautes entrées royales de l'âme. Malgré tout, leur chemin restait profondément caché dans la lumière. Puis cherchant à savoir d'où venaient ces intrus, Savitri vit une immensité spirituelle, imprégnant et enveloppant l'espace du monde. Comme l'éther emplit tangiblement notre air transparent et tranquillement, à travers lui, faisait voile une pensée, ainsi doucement que glisse un navire qui arrive à son port, ignorant les embargos et les blocus, sûr de son entrée et du sceau de son visa. La pensée arrivait à la silencieuse cité du cerveau, vers son quai habituel attendu, mais là, elle rencontrait un barrage d'une volonté. supporter le coup d'une force et sombrer, évanoui, dans l'immensité. Après un long arrêt vide, comme une autre pensée apparaissait, d'autres, une par une, émergeaient soudain, venues de l'au-delà, visiteuses inattendues du mental, comme de lointaines voiles sur une mer déserte. Mais bientôt, ce commerce s'arrêtait. Nul voile ne touchait plus la côte du mental. Alors, tout est devenu tranquille. Rien ne bougeait plus. Immobile, plongé en lui-même, éternel, solitaire, un esprit silencieux emplissait le silence de l'espace. Dans cette immobilité absolue, formidable et nue, transparaissait la négation totale d'un vide suprême qui affirmait son nihil mystique et son droit souverain d'annuler la nature et de nier l'âme. Même l'essence nue du moi devenait pâle et ténue, impersonnel, sans signe, sans trait visible de forme, une pure conscience déserte avait pris place dans le mental. L'esprit de Savitri semblait la substance d'un moi. Le monde, un monde, un symbole pictural tracé sur le moi, un rêve d'image, un rêve de son, bâtissait une semblance d'univers ou prêtait à l'esprit l'apparence d'un monde. C'était une vision créée par soi-même. Dans ce silence intolérant, aucune notion, aucun concept ne pouvait prendre forme. Nul sens n'était là pour encadrer l'image des choses. Il n'y avait là qu'un pur spectacle de soi-même. Nulle pensée ne surgissait. Les émotions dormaient profondément dans le cœur immobile ou restaient enterrées dans un cimetière de paix. Tous les sentiments semblaient en repos, calmes ou morts, comme si les cordes du cœur arrachées ne fonctionnaient plus et la joie ni le chagrin ne pouvaient plus jamais revivre. Le cœur continuait de battre d'un rythme inconscient, mais nulle réponse ne sortait de lui et nul cri. Vaine était la provocation des événements, rien ne répondait dedans au toucher du dehors, aucun air ne remuait, aucune réaction ne montait. Et pourtant, le corps de Savitri voyait encore et se mouvait et parlait. Il comprenait sans l'aide d'une pensée. Il disait ce qui était nécessaire de dire. Il faisait ce qui était nécessaire de faire. Il n'y avait personne derrière l'acte, aucun mental ne choisissait ni ne passait le mot juste. Tout opérait comme une machine exacte et sans erreur. La mécanique continuelle, sa vieille ronde habituelle. Comme poussée par une vieille force inépuisée, faisait le travail pour lequel elle avait été faite. La conscience de Savitri était spectatrice et ne prenait aucune part. Elle soutenait tout, rien en elle ne participait. Il n'y avait aucune volonté forte initiatrice. Une incohérence traversait un vide immuable et se glisser furtivement dans une suite de hasards voisins. Une pure perception était le seul pouvoir qui restait derrière l'acte et la vue de sa vitrine. Si cela se retirait, tout objet disparaîtrait. Son univers privé cesserait d'être. Cette maison qu'elle avait construite avec des briques de pensée et d'essence au commencement après la naissance de l'espace. Cette vue était identique à la chose vue. Elle savait sans connaissance tout ce qui pouvait être connu. Elle voyait impartiellement le monde passé, mais d'un même suprême regard impassible, elle voyait aussi son irréalité insondable. Cette vue suivait l'image du jeu cosmique, mais la pensée et la vie intérieure, dans les formes, semblaient mortes, abolies par l'écroulement de sa propre pensée. Seule persistait encore une coquille creuse physique. Tout semblait une ombre brillante de soi-même, un film cosmique de scènes et d'images, la masse durable des montagnes et les contours étaient un dessin tracé sur un mental silencieux et retenu dans une fausse solidité tremblotante par les battements continus d'une vue imaginaire. La forêt, ses vertes multitudes habillées d'un semblant de teinte, un vague espace vide. Les couleurs d'une peinture cachaient une surface nulle qui scintillait au bord de la dissolution. Le bleu du ciel, illusion des yeux, torturé dans le mental, l'illusion du monde. Le bleu du ciel, illusion des yeux, toituré dans le mental, l'illusion d'un monde. Les hommes qui marchaient sous des cieux irréels semblaient des pantins mobiles taillés dans du carton et poussés à travers le sol par d'invisibles mains ou des dessins animés collés sur un film de fantaisie. Il n'y avait point d'âme dedans, pas de force de vie. Les vibrations du cerveau qui apparaissent comme de la pensée, la brève réaction des nerfs au choc de chaque contact, le tressaillement du cœur senti comme joie et chagrin et amour étaient des contradictions du corps, leur semblance de moi. Ce corps, forgé par les atomes, et formé de gaz, était un mensonge confectionné par la fabrique de la Maya. Sa vie, un rêve vu par le vide qui dort. Les animaux solitaires ou en troupeau dans les clairières s'enfuyaient comme une vision fugitive de grâce et de beauté, imaginée par quelque œil créateur de tout, et pourtant quelque chose était là, derrière ces scènes évanescentes. N'importe où elle se tourne, quoi qu'elle regarde, c'était perçu, et pourtant caché au mental et à la vue. L'unique et le seul réel avait fermé sa porte à l'espace et restait en dehors de l'idée du temps. Sa vérité s'évadait des formes, des lignes et des couleurs. Tout le reste devenait insubstantiel, automatiquement annulé. Cela seul semblait perpétuel et vrai. et pourtant cela ne demeurait nulle part, c'est en dehors des heures, car seul pouvait justifier tout ce labeur de vision. Mais la vue ne pouvait pas lui définir une forme, car seul pouvait apaiser l'oreille insatisfaite. Mais l'écoute écoutait en vain un son manquant, cela ne répondait pas au sens, ne visitait pas le mental, car cela rencontrait comme une voix inaudible, jamais saisie, qui parle du haut de l'inconnaissable à jamais. Cela l'a rencontré comme un point omniprésent, pur de dimension, invisible, jamais fixé, l'unique unité de tout, son battement multiplié, accentué sa seule éternité. Alors je répète, c'est merveilleux. Cela l'a rencontré comme un point omniprésent, pur de dimensions invisibles jamais fixées, l'unique unité de son battement multiplié, accentué sa seule éternité. Cela était devant elle comme l'immensité de quelque vaste néant, un nom sans fin à tout ce qui semblait être, un oui sans fin aux choses à jamais inconçues. Et tout ce qui n'est jamais imaginé et jamais pensé, un éternel zéro, ou quoi que ce soit jamais additionné, un infini sans espace et sans lieu. Et pourtant, l'éternité et l'infinité semblaient seulement des mots, futilement apposés par l'incompétence du mental sur sa prodigieuse réalité déserte. Le monde est seulement un éclat d'étincelle de sa lumière. Tous les instants rayonnent de 7 à jamais 100 ans. Tous les objets miroitent de ce sans corps et disparaissent du mental sitôt que cela est vu. Cela tenait comme un bouclier devant sa face, une conscience qui voyait sans voyant, une vérité où la conscience n'est pas ni le connaisseur ni le connu. Un amour amoureux de son propre délice, où l'amant n'est point ni le bien-aimé. Pour introduire par le vase, dans le vaste leur passion personnelle, une force omnipotente dans la quiétude, une félicité que nul ne peut jamais espérer goûter. Cela rendait nul la convaincante du prix du moi, une vérité dans le rien était sa puissante piste. Si toute l'existence pouvait renoncer à être et l'être, prendre refuge dans les bras du non-être, et le non-être pouvait rayer son zéro rond, quelques lueurs de cette réalité pourraient apparaître. Une libération sans forme est tombée sur sa vitrine. Jadis vivante dans le sépulcre du cerveau et de la chair, elle est ressuscitée du corps, du mental et de la vie. Elle n'est plus une personne dans un monde. Elle s'est évadée dans l'infinité. Ce qui jadis fut elle-même avait disparu. Il n'y avait plus de cadre, de choses, plus d'images, d'âmes, réfugiées du domaine des sens, échappées de la nécessité de penser, délivré de la connaissance et de l'ignorance, et sauvé du vrai et du non-vrai. Elle partageait la haute retraite du supraconscient, au-delà du verbe né de lui-même, au-delà de l'idée nue, la première base solide de la conscience pure. Il n'y avait pas d'être là, l'existence n'avait pas lieu, il n'y avait rien pour être tenté de la joie d'être. Indisiblement, affaissé, personne et nul, vestige évanescent comme une trace violette, vague histoire d'un mois maintenant passé. Elle était un point dans l'inconnaissable. Seul restait maintenant quelques ultimes annulations, vague seuil indéfinissable de l'annihilation, une mémoire d'être restait encore là et la garder séparée de rien. Elle était dans cela, mais pas encore devenue cela. Cette ombre d'elle-même, si proche du néant, pouvait être de nouveau le point d'appui d'un moi pour vivre. Alors aujourd'hui, j'arrête Savitri, livre 7, chant 6, le Nirvana de Sri Savitri, de Sri Aurobindo, traduction de Satprem. Merci Stefano, Ganga Lakshmi, House of Mother Agenda, Savitri, Bhavan. Thank you Stefano.
Oui, vous écoutez Auroville Radio from Auroville, la ville internationale in India.